Héloïse, grâce à l'étude dont nous parlons aujourd'hui à la Une de la Science, on va mieux comprendre pourquoi les excès alimentaires en appellent souvent d'autres, et ça n'est pas le manque de volonté qui est en cause.
Non Mathieu, ce serait plutôt une brouille, un sévère manque de communication entre le ventre, bien connu maintenant pour être notre deuxième cerveau, et le cerveau du haut. Une équipe de scientifiques de l'université de Louvain en Belgique ont disséqué les dysfonctionnements biologiques qui poussent les personnes qui ont un régime trop riche en graisse à manger plus que de raison et donc à prendre du poids. Les travaux sont publiés dans la revue Nature Communication. Nous sommes au téléphone avec Patrice Cani, un des auteurs de l'étude. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'Université catholique de Louvain, chercheur au Fonds national de la recherche scientifique en Belgique donc. Alors, quand tout se passe bien dans l'organisme, notre ventre informe notre cerveau qu'on a assez mangé et qu'il est temps de poser sa fourchette. Hein. C'est bien ça. Comment cette communication fonctionne-t-elle ?
Alors vous avez effectivement différents mécanismes qui envoient des signaux de la part de votre intestin vers le cerveau en l'informant de ce que vous avez mangé. Et en quelque sorte, des hormones qui vont être produites par l'intestin peuvent circuler et atteindre le cerveau. Et lorsque vous mangez, en quelque sorte, des graisses principalement, ici dans notre discussion, vous pouvez avoir des signaux qui vont vous dire « stop, je n'ai plus faim ». Ça, c'est quand tout fonctionne correctement.
C'est une enzyme qui permet ce rôle de communication ?
Exactement. Donc en fait, vous allez recevoir de la part de votre cerveau des informations qui vont vraiment vous donner soit l'envie de manger, soit l'arrêt complet, cette satiété. Et au-delà de cela, vous avez aussi des mécanismes on parle ici de mécanismes de récompense. Mais le mécanisme dont je parle est vraiment celui que vous ressentez au jour le jour, chaque fois que vous mangez, c'est ce système qui permet de dire à votre cerveau que vous avez reçu suffisamment d'énergie.
Alors, en revanche, chez certaines personnes qui consomment trop de graisse, cette belle mécanique se grippe. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas ?
Alors en fait, ce qu'on a découvert, c'est que lorsque vous mangez un régime trop riche en graisse, il y a une enzyme dans votre intestin dont l'activité est diminuée et elle ne produit plus ces fameuses molécules qui informent votre cerveau qui leur dit en fait « stop, je n'ai plus faim ». Et cette prise de graisse, lorsqu'elle est continue, en l'occurrence la plupart du temps quand on parle d'une mauvaise alimentation, eh bien cette enzyme ne se remet plus du tout en fonction et on entre dans un cercle vicieux, vous perdez cet axe intestin-cerveau de communication qui vous dit « stop, je n'ai plus faim ».
L'implication de cette enzyme spécifique, vous avez pu la démontrer scientifiquement ?
Alors exactement, d'un point de vue expérimental, on a créé un modèle animal qui ne possède plus du tout cette enzyme dans son intestin. Et lorsqu'il est mis face à un régime riche en graisse pour la première fois, eh bien cet animal va continuer à manger. Il ne s'arrête pas de manger et évidemment la résultante, c'est une prise de poids, une obésité et même un foie gras.
Alors cet animal, Patrice Cani, c'est une souris. Hein.
Exactement.
Ouais, on peut transposer vraiment à l'homme ce qu'on observe chez la souris en l'occurrence ?
Alors évidemment c'est toujours difficile de transposer avec exactitude ce qu'on observe chez l'animal de laboratoire à l'homme. Ce que je peux vous dire c'est que chez l'homme on a déjà observé clairement que les taux circulants, donc la présence de ces hormones dans le sang, en l'occurrence produites par ces hormones, sont plus basses au cours de l'obésité et du diabète de type 2. Donc on pourrait imaginer effectivement qu'il y ait un lien entre évidemment l'alimentation et surtout la diminution de l'activité de cette enzyme.
Et pour revenir à la souris justement, vous êtes allé encore plus loin, vous avez pu voir ce qui se passait dans son cerveau ?
Oui, évidemment, quand on parle de l'axe intestin-cerveau, il faut pouvoir démontrer cette modification au niveau cérébral. Alors on a imaginé un système qui nous permet de vérifier à l'intérieur de l'hypothalamus, donc c'est cette zone du cerveau qui contrôle l'appétit, quels sont les neurones qui étaient activés de manière physiologique. C'est-à-dire quand vous mangez, vous avez dans votre cerveau, tout un chacun, et pour le coup c'est vrai chez l'homme également, des neurones qui vont être activés, ces fameuses neurones de la zone anorexigène. Chez ces animaux, on observe qu'en absence de cette enzyme, eh bien, cette zone du cerveau n'est absolument pas activée.
Et la désactivation de ces neurones, elle a d'autres conséquences sur le corps, à part la dérégulation de la satiété ?
Tout à fait. Donc cette partie du cerveau contrôle non seulement l'appétit, mais contrôle également la dépense énergétique. En d'autres mots, ici, nous avons un système qui permet de réguler l'appétit, la prise alimentaire, l'entrée de l'énergie dans l'organisme, mais également la dépense énergétique au repos. Et quand ce système n'est plus activé, ou n'est pas activé en l'occurrence, eh bien, l'animal, et même la personne, ne ressent plus cette sensation de satiété et finalement dépense également moins d'énergie, tout concourt vers une augmentation de la prise de poids.
Donc tous ces mécanismes que vous décrivez, ça explique alors pourquoi c'est si difficile de maigrir et pourquoi on reprend facilement du poids après un régime.
Oui, en tous les cas, c'est une hypothèse que nous avons, effectivement. Quand vous imaginez que ce système contrôle à la fois la prise alimentaire et la dépense énergétique, lorsque vous allez inhiber ou diminuer l'activité de ce système, c'est ce qui se passe d'ailleurs lorsque vous continuez à manger un régime riche en graisse, il est très très difficile, lorsque vous arrêtez de manger ou que vous essayez de faire un régime, de récupérer cette signalisation très importante pour la régulation du poids corporel. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle de ce fameux yo-yo, il n'est pas impossible d'ailleurs que ces signaux ne puissent pas réapparaître correctement et finalement on enraye la machine. Il va falloir dépenser plus d'énergie pour perdre la même quantité de poids, ou en l'occurrence être encore plus drastique en termes de régime hypocalorique pour avoir le même effet. Et oui, c'est là qu'il vient la difficulté.
Justement, Patrice Cagny, on a souvent dit à cette antenne à quel point les régimes pouvaient être délétères, justement, et la multiplication, justement, de ces effets yo-yo. Est-ce que votre étude, finalement, le confirme sur le fait de déréguler ce mécanisme que vous venez de nous décrire ?
Alors, évidemment, c'est toujours facile à dire, et même d'un point de vue thérapeutique, c'est toujours très très compliqué de prendre en charge l'obésité et le surpoids, justement à cause de ces différentes difficultés. Alors ici, on pointe un mécanisme potentiellement intéressant. Je ne pense pas qu'il faut lancer de faux espoirs non plus, mais néanmoins, cette expérience nous laisse penser que des mécanismes de régulation de la prise alimentaire et de la dépense énergétique pourraient être ciblés.
Juste une précision, depuis le début, on parle de graisse. De quelles graisses on parle exactement? Lesquelles sont les plus nocives pour notre système enzymatique?
Alors évidemment, ici, c'est vraiment une question importante que vous pointez ici. Quand on parle des graisses, celles qui ont l'effet le plus délétère, ben, je ne vais rien vous apprendre, ce sont ces fameuses graisses saturées, alors que les fameuses graisses polyinsaturées de type, par exemple, acide gras oméga 3, ces fameuses huiles de poisson, par exemple, ont un effet tout à fait inverse. Donc je dirais que les graisses saturées, comme on le savait pour les risques de maladies cardiovasculaires, sont aussi délétères pour l'activation de cette enzyme, ils diminuent son activité, tandis que les graisses polyinsaturées de type oméga 3 ont plutôt un effet inverse et bénéfique cette fois-ci.
Mais il y a un effet de réversibilité dans ce que vous décrivez. Quand le dialogue intestin-cerveau a été endommagé, il est possible de le réparer?
Alors, expérimentalement, on démontre dans les modèles animaux que si vous cessez le régime riche en graisse saturée, vous pouvez récupérer après quelques semaines une signalisation de l'axe intestin-cerveau qui est restaurée de manière adéquate. Donc je dirais qu'on pourrait extrapoler cela, mais probablement au long cours, chez des personnes qui, cette fois-ci, entament un régime hypocalorique, mais pris en charge correctement, c'est bien là la difficulté, on pourrait imaginer récupérer effectivement une meilleure signalisation, une meilleure, d'ailleurs, sensation de faim et de satiété. Lorsque vous êtes face à un régime hypocalorique drastique, vous perdez aussi cet axe intestin-cerveau. Vous entrez dans une situation où le corps est en stress, et c'est là qu'il se trouve évidemment le problème.
Et quand on parle de l'axe intestin-cerveau, on pense souvent au microbiote intestinal, on en parle beaucoup en science. Est-ce qu'il a un lien avec vos travaux?
Oui, il est vrai que nous travaillons sur le microbiote intestinal depuis une vingtaine d'années au laboratoire, je dirais bien avant qu'il acquiert ses lettres de noblesse. Dans ce cadre, ici, dans l'expérience nous montre que le régime riche en graisse effectivement modifie la composition du microbiote intestinal. Et lorsque ces souris ne possèdent plus cette enzyme, elles ont également une dérégulation de ce microbiote intestinal. D'ailleurs, on a utilisé un outil, on utilise une bactérie qui porte un nom un peu particulier qui s'appelle Ackermansia. Cette bactérie, lorsqu'on l'administre aux animaux, eh bien on restaure le dialogue intestin-cerveau, démontrant en quelque sorte qu'en jouant sur ce microbiote intestinal, on peut probablement aussi améliorer la signalisation entre l'axe intestin et cerveau en améliorant différents mécanismes, cette fois-ci indépendants de cette enzyme.
Allez, une dernière question, Héloïse.
Alors, vous l'avez dit, on ne peut pas donner de faux espoirs aux personnes obèses, mais est-ce que vos travaux, quand même, ouvrent des pistes thérapeutiques intéressantes?
Écoutez, je pense qu'il y a plusieurs pistes que l'on pourrait explorer. D'abord, le fait que les molécules qui sont produites par cette enzyme et qui diminuent l'appétit existent déjà au niveau de certaines sociétés pharmaceutiques qui démontrent leur efficacité chez l'homme pour la régulation de l'appétit. Et d'autres molécules qui sont utilisées aussi, cette fois-ci dans le cadre de l'inflammation intestinale, pourraient très bien être testées chez l'obèse qui n'a pas encore été le cas. Et puis, finalement, modifier la composition du microbiote à l'aide de notre alimentation reste probablement la piste la plus intéressante et la plus abordable.
Merci Patrice Cagny pour vos précisions. Vous êtes professeur à l'Université catholique de Louvain et chercheur donc au Fonds national de la recherche scientifique. Merci beaucoup Héloïse.
Merci Mathieu.
Et dans un instant, notre dossier consacré aujourd'hui au jour où l'homme inventa la guerre.